Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle du poids de l'histoire familiale sur la trajectoire professionnelle. Autrement dit, comment nos choix professionnels peuvent-ils être inconsciemment liés au vécu de nos ancêtres ? Les facteurs qui influencent le choix d'un métier ou d'une voie professionnelle sont multiples. Certains sont en lien avec notre propre vécu, nos talents, nos rencontres heureuses ou malheureuses, les mains tendues, les expériences douloureuses ou les coups de chance. Ce ne sont pas ceux-là auxquels je vais m'intéresser dans cet épisode, mais plutôt à ceux qui sont en lien avec notre histoire familiale, qui est bien sûr toujours à resituer dans un contexte historique, culturel et social. Le milieu social d'origine, qui conditionne l'accès aux ressources économiques, mais aussi et surtout la réussite scolaire, est un des facteurs prédominants de l'orientation professionnelle. On sait que la reproduction sociale est la règle en France. Les enfants occupent dans la société une position sociale identique ou analogue à celle de leurs parents. Dit autrement, les enfants d'ouvriers sont majoritairement ouvriers, tandis que les enfants de cadres sont majoritairement cadres, l'ascenseur social étant plutôt l'exception. Le sociologue Pierre Bourdieu a notamment montré à travers la notion d'habitus que se transmettent, de façon inconsciente dans une famille, de génération en génération, des manières d'être et de se comporter dans des situations sociales qui vont favoriser cette reproduction sociale. Aujourd'hui, on parle par exemple des « soft skills » pour désigner des compétences relationnelles et comportementales comme la communication, la créativité, l'empathie, qui sont acquises dès l'enfance dans les milieux sociaux favorisés et finissent par faire partie intégrante de la personnalité, par opposition aux autres compétences qui, elles, peuvent être acquises par la formation. Et sans surprise, les études récentes montrent que ces « soft skills » ont une influence importante sur le niveau de rémunération et l'accès aux emplois les plus qualifiés. La période historique, en lien avec le contexte culturel et social, a bien sûr également son importance dans les choix professionnels. Cette question du choix est d'ailleurs une question assez contemporaine. Plus on remonte en arrière dans les générations, moins nos ancêtres pouvaient librement décider du choix du métier qu'ils souhaitaient exercer. Pour ce qui concerne les hommes, dans le monde rural, la question du choix ne se posait pas. On était maréchal ferrant ou agriculteur de père en fils. Dans certains milieux sociaux, les fils aînés reprenaient le cabinet, le commerce, l'entreprise ou l'exploitation familiale, tandis que les seconds étaient destinés à devenir prêtres et dans certaines familles, le troisième fils devait embrasser une carrière militaire. Quant aux femmes, la question du choix professionnel ne se posait pas non plus. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut attendre 1965 pour que les femmes puissent exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Avant la Première Guerre mondiale, en fonction du milieu social, soit elles ne travaillaient pas, soit elles aidaient leur mari à la ferme, soit elles étaient lingères, couturières ou modistes. Par la suite, certains métiers étaient réservés aux femmes, comme sténodactylo ou institutrice, et la plupart du temps, il n'était pas envisageable qu'une femme puisse faire un autre métier. On trouve d'ailleurs encore aujourd'hui les échos de ce phénomène dans l'inconscient familial de certaines familles, où l'on pense toujours, sans le dire, que les femmes devraient être secrétaires, assistantes ou institutrices, et qu'elles devraient arrêter de travailler dès la naissance de leur premier enfant. Bien sûr, le contexte économique a son influence également. Les perspectives ne sont pas les mêmes pour un jeune adulte à la fin de la Première Guerre mondiale que pour le même jeune se retrouvant sur le marché du travail pendant les Trente Glorieuses, où trouver du travail est chose facile, même sans diplôme. Elles ont été encore différentes pour ceux et celles qui ont grandi en pleine crise économique, s'entendant répéter à longueur de journée « ça va être dur pour toi de trouver du travail ». Si nous ne sommes donc pas tous dans le même contexte quand vient le moment de nous lancer dans la vie professionnelle, nous avons tous été profondément influencés, consciemment et inconsciemment, par notre histoire familiale. Comme je l'ai évoqué dans l'épisode sur la relation à l'argent, l'histoire familiale, telle qu'elle est racontée à travers le roman familial, peut orienter plus ou moins consciemment les choix professionnels des générations suivantes. Dans les familles marquées par des faillites, les descendants peuvent être inconsciemment freinés pour devenir entrepreneurs. Dans les familles où la légende familiale rapporte qu'un ancêtre s'est tué au travail, les descendants feront sans doute des choix professionnels radicalement opposés à leurs ascendants. Dans les familles marquées par une profonde insécurité financière, les choix professionnels se dirigeront plutôt vers des emplois stables et sécurisants, comme la fonction publique par exemple. mais il peut aussi émerger un fort désir de revanche qui mènera certains à rechercher des métiers à très forte rémunération. Certains enfants seront chargés d'achever l'inachevé d'un ancêtre, comme cet homme que j'avais accompagné qui avait passé sa vie à reconstruire l'entreprise familiale qui avait fait faillite alors qu'il n'avait que 16 ans et qui s'est effondré physiquement et moralement quand le moment est venu de céder l'entreprise à une personne extérieure. Il a réalisé que ses difficultés étaient liées à son sentiment d'être déloyal à sa mission de reconstruire et de garder l'entreprise dans la famille. D'autres enfants, en fonction du contexte dans lequel ils naissent, reçoivent la mission de poursuivre la carrière d'un ancêtre, comme le décrit si bien Daniel Flomenbaum dans l'introduction à son livre « Femme désirée, femme désirante ». Je suis née pendant la guerre, troisième d'une fratrie de trois filles, de 11 et 15 ans mes aînées. Mes parents, des juifs polonais cachés en zone libre dans le midi de la France, avaient appris par la rumeur que les femmes enceintes ou avec des enfants de moins d'un an ne seraient pas déportées dans les camps. Mon père, qui avait perdu sa mère alors qu'il n'avait que 3 ans, était soucieux de préserver sa femme et ses filles. Ma mère, qui venait de perdre sa mère, à qui elle vouait un amour inconditionnel, était en plein deuil. Je suis donc née pour sauver ma mère et mes sœurs, pour être le rayon de soleil qui redonne vie à la folie humaine. Si j'ajoute que ma grand-mère maternelle était sage-femme, voilà mon destin de gynécologue qui s'impose, puisque je prolonge cette femme que je n'ai pas connue et dont je porte le prénom. Moi qui aimais les sciences de la nature, les langues et les voyages, je me retrouve à la faculté de médecine sans rien y comprendre. On voit bien là comment c'est parfois l'intrication complexe entre un contexte historique, une histoire familiale, des émotions transmises par les parents, le poids des ancêtres, qui peut peser dans le choix d'un métier. Les choix professionnels de certains viendront réparer les traumatismes familiaux. J'ai accompagné ainsi une femme, infirmière puéricultrice, qui m'a raconté comment ses parents, à chaque Noël, lui offraient toujours les deux mêmes cadeaux, une poupée et une petite trousse de médecin. Sa famille paternelle avait été traumatisée par la mort du fils aîné à l'âge de 6 ans, emporté subitement par la maladie, sans que les parents aient eu même le temps et la possibilité de le faire soigner. Ainsi, pour l'inconscient familial, la meilleure façon que cela ne se reproduise jamais était la présence d'une soignante spécialisée dans l'enfance, au sein même de la famille. Un autre exemple connu est celui de Serge Klarsfeld, appelé parfois le chasseur de nazis, qui consacra sa vie à défendre la cause des descendants de déportés et dont le fils Arnaud poursuivit le travail. Mais le traumatisme peut parfois être beaucoup plus ancien et la réparation d'ordre symbolique. Dans son livre « Aïe mes aïeux », Anne Ancelin-Schutzenberger évoque ainsi la situation d'une famille arménienne dans laquelle la grand-mère avait vu passer sur des pics les têtes de ses deux sœurs et de sa mère, et dont les descendantes étaient presque toutes coiffeuses, comme si dans l'inconscient familial, il fallait réparer et embellir ses têtes. D'ailleurs, si l'on regarde la symbolique des métiers au sein d'une famille, on peut parfois avoir une idée de ce qui préoccupait nos ancêtres ou de ce qui transite dans l'inconscient familial. Les métiers de l'armée, de la gendarmerie, de la police peuvent révéler une mémoire d'insécurité ou un manque de père dans l'histoire familiale, tandis que les métiers de la cuisine parlent plutôt du lien à la mère. Les professions comme juge ou avocat peuvent évoquer une mémoire d'injustice, tandis que les métiers comme instituteur, institutrice ou psychologue pour enfants peuvent indiquer qu'il y a quelque chose à réparer dans sa propre enfance ou dans l'enfance d'un membre de sa famille. Les métiers autour de la comptabilité peuvent laisser penser à des mémoires de faillite, de spoliation ou de dette, celui de notaire à des mémoires de perte de territoire. Les métiers de journaliste, d'antiquaire ou de bibliothécaire peuvent indiquer qu'il y a quelque chose à mettre en lumière dans l'histoire familiale. Et bien sûr, les psychologues, sophrologues et thérapeutes doivent se demander qu'est-ce qu'ils réparent de leurs histoires familiales, au même titre que les infirmiers, infirmières, médecins et professions médicales peuvent se demander qui n'a pas pu être soigné dans la famille. Mais attention, la symbolique des métiers n'est pas à prendre au pied de la lettre, et les métiers occupés sont toujours à replacer avant tout dans le contexte familial, social, culturel et historique. Si l'histoire familiale impacte les choix professionnels des descendants, c'est qu'elle va générer des croyances qui s'inscrivent dans le mythe familial et se transmettent ainsi de génération en génération, comme je vous l'ai dit dans l'épisode consacré à ce sujet. Il existe ainsi toutes sortes de croyances autour des métiers qui sont en lien avec l'histoire familiale et le milieu social. On trouve par exemple l'idée qu'un métier, c'est ce qu'on fait avec ses mains. Ou à l'inverse, des familles où seuls les métiers intellectuels sont valorisés. Ou encore, la croyance que les activités artistiques sont des loisirs, pas des métiers, qui a détruit bien des vocations artistiques. Et même lorsque ces croyances ne sont pas expressément verbalisées, qu'aucune interdiction n'est formellement posée, les enfants se dirigeront tout naturellement, si j'ose dire, vers des métiers qui sont acceptables dans leur famille. Et s'ils réalisent plus tard qu'ils ne sont pas à leur place, ils ont des difficultés à s'autoriser à changer de métier. Et oui, puisque je vous le rappelle, nous sommes tous en prise à une puissante loyauté familiale. Nous suivons fidèlement le modèle familial sans parfois même en avoir conscience. Ceux qui s'essaient à trahir se retrouvent souvent en proie à des conduites d'auto-sabotage qui ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront pris conscience que ces échecs à répétition sont en réalité le prix qu'ils se font payer pour avoir été déloyaux à ce que leur famille attendait d'eux. Je rencontre ainsi beaucoup de femmes qui s'interdisent de réussir, de s'épanouir et de gagner de l'argent dans un travail qui leur fait plaisir, et qui se rendent compte en se penchant sur ce qui leur a été transmis qu'elles sont en loyauté aux femmes de leur famille, qui ont sacrifié leur carrière pour élever leurs enfants. Dans le même registre, certaines personnes sont en loyauté à des membres de leur famille qui ont exercé des métiers difficiles et ne s'autorisent pas à choisir un métier qui favorise leur épanouissement personnel, puisqu'un vrai travail, c'est celui qui fatigue et qui use. D'autres s'empêchent inconsciemment d'exercer un métier ou d'accepter une promotion qui ferait d'eux symboliquement les supérieurs hiérarchiques de leurs parents, ou qui les projetterait dans une classe sociale plus favorisée que celle de leurs parents. Ce qui m'amène à vous dire quelques mots de la névrose de classe, terme employé par le sociologue Vincent de Gaulle-Jacq, pour évoquer ces personnes qui, suite à une trajectoire professionnelle qui les a menées dans une classe sociale différente de leur classe sociale d'origine, vivent un intense conflit psychique. C'est le cas par exemple pour les enfants d'immigrés qui accèdent à un milieu social plus favorisé que celui de leurs parents, les enfants d'ouvriers ou de paysans qui deviennent cadres, ou à l'inverse, les enfants de la bourgeoisie en déclin qui se retrouvent dans un milieu social qui ne correspond pas à celui dans lequel ils ont grandi. Même si Vincent de Gaulle-Jacq est revenu depuis sur l'utilisation à la fois du terme de névrose, trop connoté freudien, et du terme de classe, qui appartient à un monde où la lutte des classes était plus marquée, alors qu'à l'heure actuelle nous sommes plutôt dans une lutte des places, plus recentrée sur la compétition entre individus, les effets psychiques d'une trajectoire professionnelle en décalage avec son milieu social d'origine existent encore aujourd'hui. Si la régression sociale se manifeste principalement par la dénégation et le repli sur soi, les phénomènes d'ascension sociale se traduisent eux en premier lieu par une forte anxiété, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, un sentiment d'infériorité lié au décalage du milieu social, qui s'explique par le fait que la personne ne dispose pas des habitus de son nouveau milieu social. Cette anxiété s'accompagne d'un sentiment de culpabilité, plus ou moins conscient, de trahir sa classe sociale d'origine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien que la lutte des classes ne soit plus au premier plan actuellement, c'est elle qui a dominé les relations sociales depuis plusieurs siècles, et notre inconscient reste donc aujourd'hui empreint des représentations qui lui sont liées. Le ou la jeune adulte qui accède par son métier à une classe sociale plus favorisée que celle de ses parents peut donc se sentir en déloyauté par rapport à sa classe sociale d'origine, comme si il ou elle était passé à l'ennemi en quelque sorte. Et c'est ce sentiment, parfois très inconscient, qui peut mener à des conduites d'auto-sabotage. Sans aller jusqu'au conflit psychique intense qui caractérise la névrose de classe, il m'arrive assez régulièrement d'accompagner des personnes qui, suite à un changement de milieu social en lien avec leur activité professionnelle, ressentent de la honte vis-à-vis de leur famille d'origine. Honte de leur manière de s'exprimer, de leur manière de se vêtir, de se comporter, honte de leur goût, de leurs opinions politiques, de leurs amis, qui s'accompagnent parfois d'une honte d'avoir honte, d'un déchirement intérieur entre l'amour pour leurs parents et la honte qu'il leur inspire. Cette honte, quand elle est conscientisée, peut être à l'origine de conflits familiaux, d'incompréhension entre parents et enfants, et source de souffrance, voire de rupture familiale. Quand elle n'est pas mise à jour, elle peut se manifester sous d'autres formes, comme la colère ou la tristesse. Le transfuge de classe, comme on l'appelle, se trouve donc en prise à un puissant conflit d'identité, avec le sentiment de n'être jamais vraiment à sa place, ni avec ses parents, ni dans son nouveau groupe social. Ce sentiment d'illégitimité aboutit souvent à des conduites de surinvestissement dans le travail, comme si ces transfuges de classe avaient toujours quelque chose à prouver. C'est ce vécu que retranscrivent dans leurs ouvrages Annie Ernaux, Didier Ribon et plus récemment Édouard Louis. Ce que j'ai pu constater dans mes accompagnements, c'est que ce sentiment d'illégitimité, lorsqu'il est prégnant dans la vie d'un parent, peut se transmettre à son enfant par le mécanisme des transmissions invisibles dont je vous ai parlé dans un précédent épisode. Enfant qui va se sentir à l'âge adulte complètement paralysé par un puissant sentiment d'illégitimité au moment de se lancer sur le marché du travail ou d'accepter une promotion, sans en comprendre l'origine. L'histoire familiale proche ou plus lointaine se manifeste aussi bien sûr dans ce qu'on appelle le projet sens. Je vous renvoie à l'épisode sur le sujet. Et notamment à travers le projet parental. Quel projet professionnel vos parents ont-ils eu pour vous dans l'enfance, parfois même dès votre conception? Ou encore, comment le projet que vos parents avaient pour vous a-t-il impacté vos choix professionnels? Il n'est pas rare que les parents projettent, consciemment ou inconsciemment, sur leur enfant, dès sa conception, leurs rêves non réalisés. J'accompagne souvent des personnes qui se rendent compte qu'elles ont suivi la voie professionnelle qui aurait dû être celle d'un de leurs parents, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité ou le droit de faire des études, soit, pour les femmes, assez souvent, parce qu'elles ont arrêté de travailler lorsqu'elles ont eu leurs enfants. Dans certains cas, les enfants ne savent même pas qu'ils poursuivent les rêves inavoués de leurs parents ou grands-parents. Le psychanalyste François Vigouroux avait relevé que, et je le cite, « les enfants accomplissent le projet secret de leurs parents, mais les parents naturellement ne le comprennent pas, et ils en veulent à leurs enfants de réaliser des rêves qui sont les leurs, mais qu'ils ne peuvent reconnaître. » À l'inverse, pour certains parents, il est important que leur enfant n'exerce pas le même métier qu'eux, car ils ont trop souffert physiquement, moralement, ou que leur métier les a placés dans une trop grande insécurité financière. Ils mettront alors tout en œuvre pour décourager leurs enfants, parfois avec succès, mais parfois les dons ne se contrarient pas et les enfants devenus adultes finiront tôt ou tard par exercer le même métier que leurs parents. J'ai accompagné ainsi une jeune femme qui avait de véritables dons pour le dessin, mais dont la mère avait tout fait pour la décourager d'entamer une carrière artistique, car elle avait elle-même beaucoup souffert de ne pas avoir réussi dans ce métier. Il arrive que les parents projettent sur leurs enfants leurs propres peurs. Peur de manquer d'argent, peur de faire un métier dangereux, peur de ne pas trouver du travail. Ces peurs, qui sont bien sûr à mettre en lien avec l'histoire familiale et le vécu des parents, se traduisent dans des injonctions à faire certaines études plutôt que d'autres, ou dans des croyances dont s'imprègne l'enfant dès son plus jeune âge. D'autres facteurs peuvent peser sur le projet parental, notamment la place occupée dans la fratrie. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode consacré à ce sujet, les aînés sont souvent les héritiers professionnels, alors que les suivants disposent d'une plus grande marge de liberté. La situation de l'enfant de remplacement peut aussi peser dans les choix professionnels, puisque l'enfant va chercher à accomplir le destin d'un autre que lui. Un projet parental peut porter ses propres contradictions. C'est le cas par exemple lorsque les parents poussent leur enfant à faire de grandes études, mais qu'ensuite ils lui en veulent d'avoir mieux réussi qu'eux et d'appartenir à un groupe social plus favorisé, comme c'est le cas dans la névrose de classe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Certains enfants seront chargés de réparer ou de guérir leurs parents. Je rencontre ainsi souvent des enfants qui deviennent médecins dans la spécialité qui correspond à la maladie d'un de leurs parents ou grands-parents. Ici encore, sans même parfois que ces projets parentaux où ses missions aient été verbalisées, l'inconscient de l'enfant les capte et il mettra tout en œuvre pour accomplir ce que ses parents attendent inconsciemment de lui. Si certains peuvent passer toute une vie à exercer un métier qu'ils n'ont pas complètement choisi, parce qu'ils s'y sentent bien ou que leur métier n'est pas une priorité pour eux, d'autres se demanderont un jour, à l'occasion d'une crise professionnelle, d'un burn-out ou de la crise de milieu de vie, ce qu'ils font dans ce job qui ne leur correspond pas du tout. Le sentiment de ne plus être à sa place, le burn-out qui est lié à un besoin de reconnaissance, la perte de motivation au travail, les échecs à répétition, les conduites d'auto-sabotage, sont autant de signes qu'une réflexion sur son parcours professionnel s'impose. La psychogénéalogie fait partie des outils qui permettent de venir questionner ce parcours professionnel. D'abord en s'interrogeant sur le projet sens. Quel projet, conscient et inconscient, mes parents avaient-ils pour moi? Est-ce que je l'ai suivi? Puis en prenant du recul sur l'histoire familiale. La réalisation du génosociogramme, un arbre généalogique détaillé sur lequel figurent notamment les métiers de chacun, permet de visualiser et d'analyser les trajectoires professionnelles et sociales sur plusieurs générations en faisant les liens avec les grands traumas familiaux. Cet accompagnement permet de mettre à jour les motivations inconscientes qui dirigent nos décisions professionnelles pour retrouver un peu de notre libre arbitre. Pour certains, cette prise de conscience leur permettra de clôturer un chapitre professionnel et de se réorienter vers une voie qui correspond à leurs aspirations profondes. Pour d'autres, elle sera un feu vert pour s'autoriser à évoluer dans leur métier actuel. Et il n'est pas rare qu'au terme de ce travail de mise en lumière de l'histoire professionnelle familiale, on découvre un ancêtre qui exerçait le métier qui nous attire en secret, comme une invitation à investir un don que nous avons reçu, mais cette fois-ci en pleine conscience. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion sur les liens entre notre trajectoire professionnelle et notre histoire familiale. Je vous mettrai en description de cet épisode les différents ouvrages que j'ai mentionnés. Et pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.